BW. Vue d'Allemagne.
Imaginez qu'on verse chaque mois 1200 euros sur votre compte sans condition. Ce sera bientôt une réalité pour une centaine de personnes en Allemagne, sélectionnées pour une étude de 3 ans. Objectif, évaluer les effets d'un revenu universel sur les individus. Le concept est séduisant, mais est-ce pour autant une bonne idée? On en parle dans un instant. Dans la deuxième partie de ce magazine, retour sur ce qu'on a appelé en Allemagne le meurtre du Tiergarten, un assassinat aux répercussions diplomatiques entre l'Allemagne et la Russie. Le procès du meurtrier présumé se déroule en ce moment à Berlin. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen et bienvenue. L'intérêt a été immédiat. Dès la première semaine, plus d'1,5 million de volontaires se sont inscrits pour participer à la première étude d'envergure en Allemagne sur le revenu universel, qu'on appelle aussi revenu de base. Le compteur s'est arrêté mardi à minuit, avec largement plus de 2 millions de candidats. À la fin, il n'en restera que 1500, dont environ 120 seulement toucheront pendant 3 ans un montant mensuel de 1200 euros, sans avoir rien d'autre à faire que de répondre à 7 questionnaires en ligne au fil de l'étude. Ça fait rêver, n'est-ce pas?
Wir wollen es wissen.
Wir wollen es wissen.
Wir wollen es wissen.
Wir wollen es wissen.
Comment le revenu de base peut changer la société? Nous voulons le savoir, clament des membres de l'association Mein Grundeinkommen, mon revenu de base, dans un spot sorti pour le lancement du projet pilote. L'Institut allemand de recherche économique DIW apporte son expertise scientifique à cette étude, qui veut notamment mesurer les effets du sentiment de sécurité matérielle sur les participants. Explication du professeur Jürgen Schupp, directeur de l'étude.
Les deux Hauptsäulen sont einmal die.
Les deux piliers sont les changements de comportement. Est-ce que je vais arrêter de travailler, changer de voie professionnelle? Que vais-je faire de mon temps? Est-ce que les participants auront un comportement plus social? Est-ce qu'ils feront des dons? À côté de ces changements objectifs, nous voulons aussi observer le ressenti et la santé psychique de ces gens et nous avons établi des indicateurs pour mesurer, par exemple, si la peur du déclassement social augmente ou diminue. C'est ce genre de choses que nous voulons étudier.
Wird die geringer? Solchen Fragen wollen wir genauso nachgehen.
Les défenseurs du revenu universel pensent qu'un tel revenu rendrait les gens plus libres, plus créatifs et globalement plus heureux. L'idée n'est pas nouvelle, l'humaniste anglais Thomas More en parlait déjà en 1516 dans son livre Utopia. Plus récemment, certains pays ont expérimenté le revenu de base sur des échantillons de population. La Finlande a par exemple versé un montant de 560 euros à 2000 personnes sans condition pendant 2 ans. Malgré des résultats globalement positifs, notamment sur la santé psychique des participants, l'expérience s'est arrêtée là. La crise économique et sociale engendrée par l'arrivée de la Covid-19 et des restrictions sanitaires mises en place dans de nombreux pays a relancé le débat du Canada à l'Espagne jusqu'à l'Allemagne. Tandis que l'Espagne a lancé en juin un revenu de base pour les ménages les plus fragiles afin de limiter les effets sociaux de la crise sanitaire, une commission parlementaire se penche actuellement sur le sujet en Allemagne suite à une pétition lancée en mars par Susanne Wiest. Elle réclame l'instauration d'un revenu universel de 1 000 euros par mois, au moins jusqu'à la fin de la crise sanitaire, et elle a récolté près de 180 000 signatures en 2 mois. Fin octobre, Susanne Wiest a pu défendre son projet devant la commission des affaires sociales du Bundestag.
Les mesures actuelles sont compliquées, bureaucratiques, chronophages et incertaines. Souvent, l'aide n'arrive pas là où elle est requise. De nombreuses personnes sont complètement passées à travers les mailles, comme les indépendants, les gens de la culture ou les étudiants. Dans cette situation exceptionnelle et difficile, nous avons besoin d'un socle financier pour nous soutenir. Personne, vraiment personne, ne doit tomber dans une détresse financière. Avec un revenu universel de crise, nous pouvons proposer à notre société un socle capable de porter tout le monde. C'est le plus important en ce moment.
Si Susanne Wiest réclame aujourd'hui un revenu universel comme réponse à la crise de la Covid-19, elle n'en est pas à son coup d'essai. Il y a 10 ans, elle avait déjà lancé une pétition sur le même sujet et fait partie des fervents défenseurs d'un revenu pour tous et sans conditions, même en temps normal. Les partisans du revenu universel y voient une solution aux problèmes actuels et futurs. Des modèles sociaux dépassés, un marché du travail en pleine mutation, ce sont pour eux suffisamment d'arguments en faveur d'un changement radical du système de redistribution. Mais l'idée a beau être séduisante, elle ne fait pas l'unanimité, ni à droite ni à gauche de l'échiquier politique. Parmi les arguments les plus souvent mis en avant par les opposants, il y a le financement d'une telle mesure. L'étude du DIW, qui concerne quelques 120 000 personnes, va ainsi coûter 5,3 millions d'euros. 150 000 donateurs privés contribuent à le financer. Étendue à toute l'Allemagne avec un montant de 1 000 euros mensuels, la somme nécessaire pour financer un revenu universel s'élèverait à environ 1 000 milliards d'euros par an. C'est à peu près ce que l'État verse à l'heure actuelle en prestations sociales, souligne le politologue Christophe Butterwege, chercheur reconnu sur la pauvreté. Il n'est pas favorable à l'instauration d'un revenu universel.
Si on instaurait un revenu universel à la place de toutes les prestations sociales, cela signifierait par exemple qu'on ne pourrait plus financer les retraites dont le montant est en partie largement supérieur à 1 000 euros par mois. Mais comme les retraites sont protégées par la Constitution, il faudrait injecter une grosse somme d'argent supplémentaire dans le système social et je doute fort qu'on puisse étendre à ce point l'État social.
Selon Christophe Butterwege, le versement d'un revenu de base à tout le monde sans distinction représenterait surtout une injustice sociale. Il explique son opposition à ce qu'il appelle le principe de l'arrosoir.
Le revenu universel traite tous les gens de la même manière, alors qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. C'est une tentative d'introduire le communisme dans le système capitaliste. Il faudrait plutôt que l'État social regarde qui a besoin d'argent. L'État doit investir son argent de manière ciblée, et cela, le revenu universel ne le fait pas.
Si Christophe Butterwege n'est pas un partisan du revenu universel, il ne partage pas pour autant l'argument selon lequel le versement d'une somme mensuelle sans condition inciterait les gens à la paresse aux dépens de la communauté.
Le travail est accompli parce que les gens cherchent un sens à leur vie, parce qu'ils veulent rendre quelque chose à la société ou parce qu'ils s'ennuieraient sans activité. Mais s'ils sont prêts à travailler et que l'État leur verse déjà 1 000 euros par mois, ils pourraient facilement accepter d'être moins payés. Le revenu universel serait donc un paradis pour les chefs d'entreprise, mais pas pour les travailleurs pauvres. C'est pour moi un argument supplémentaire pour dire que le revenu de base passe à côté des vrais problèmes.
Plutôt qu'un revenu universel, le chercheur estime donc qu'il faudrait augmenter les minima sociaux, mais aussi le salaire minimum afin de limiter la pauvreté. De son côté, Jürgen Schupp espère obtenir des réponses sur une autre question liée au travail, savoir si le revenu universel peut favoriser l'innovation et l'entrepreneuriat.
Peut-être que l'on prend des décisions plus courageuses, peut-être même au point de se lancer dans le travail indépendant, de changer d'orientation professionnelle ou de se qualifier.
Il y a toutefois de nombreuses questions auxquelles le projet pilote ne pourra pas apporter de réponse, reconnaît le professeur Schupp. Par exemple, les effets d'un revenu universel sur l'évolution des prix.
Les effets macroéconomiques sur le niveau des prix ou sur les marchés, que se passera-t-il avec les loyers si tout le monde a tout à coup plus de moyens? Est-ce que les prix augmenteraient? Que se passerait-il avec l'inflation? On ne pourra pas répondre à ces questions avec un micro-modèle. Il faudrait mener d'autres études et observer comment ça se passe dans les pays où des éléments du revenu universel sont déjà appliqués. Ce projet ne va en aucun cas apporter des solutions à toutes les questions en 3 ans d'études autour du revenu de base.
Deux autres études sont prévues dans le cadre du projet pilote pour évaluer entre autres le financement d'un revenu universel par l'impôt. Allemagne, deuxième partie. C'est une histoire digne d'un film d'espionnage, mais pourtant elle est vraie. Et c'est le parquet allemand qui l'a résumé le mieux. Des autorités au sein du gouvernement central de la Fédération de Russie ont donné l'ordre de liquider Zelimkhan Kangoshvili en raison de son opposition à l'État central russe, au gouvernement de ces républiques autonomes de Tchétchénie et d'Ingouchie, ainsi qu'au gouvernement pro-russe de Géorgie. Zelimkhan Kangoshvili a été assassiné de plusieurs balles à bout portant à l'été 2019 en plein cœur de Berlin, à quelques encablures du quartier gouvernemental. Vétéran de la seconde guerre de Tchétchénie et de la guerre de 2008 en Ossétie du Sud, Zelimkhan Kangochvili avait demandé l'asile en Allemagne après avoir été victime de plusieurs tentatives d'assassinat. Il y a quelques semaines, s'est ouvert à Berlin le procès contre l'auteur présumé de cet assassinat, Vadim Krasikov, avec en toile de fond le Kremlin et les services secrets russes. Depuis la capitale allemande, c'est le reportage de Julien Méchossi.
War es ein Auftragskiller der russischen Regierung? Prozessauftakt im Tiergartenmord.
Le meurtre du Tiergarten, une expression rentrée dans le vocabulaire commun pour désigner l'assassinat de Zelimkhan Kangochvili dans le plus grand parc de la capitale allemande.
Auftragsmord staatlicher russischer Stellen.
Sur le banc des accusés de la salle numéro 700 du tribunal pénal, surveillé par des policiers cagoulés et lourdement armés, Vadim Krasikov, 55 ans, protégé par une vitre blindée. Jointe par téléphone, peu avant l'ouverture du procès, Barbara Petersen est l'une des avocates de la partie civile.
Pour la famille de la victime, il est absolument nécessaire de savoir qui se cache derrière cet acte inimaginable, avec des organismes étatiques étrangers qui décident de tuer ce qu'ils considèrent comme un ennemi public. La victime a été exécutée en plein jour, en pleine rue, avec des passants tout autour. Une exécution commanditée. Et il est primordial, autant pour les proches de la victime que pour la République fédérale d'Allemagne, de savoir qui en sont les véritables responsables.
En Allemagne, cet assassinat revêt la même dimension que l'affaire Skripal, du nom de Sergei Skripal, ancien officier de renseignement militaire russe, empoisonné en Angleterre aux côtés de sa fille Yulia avec un agent neurotoxique Novichok. Et comme Sergei Skripal, Zelimkhan Kangochvili a été victime, selon le parquet allemand, d'un acte commandité par des organismes étatiques russes. Mike Baumgartner est à l'origine de nombreuses révélations sur cette affaire. Selon ce journaliste d'investigation à l'hebdomadaire Der Spiegel, il n'y a aucun doute, les responsables de la mort de l'opposant tchétchène se trouvent bien en Russie.
Si cet assassinat n'a eu aucune conséquence sur la sécurité du citoyen allemand moyen, le signal envoyé à tous les opposants, qu'ils soient tchétchènes, géorgiens ou russes, et qui ont fui en Europe pour ne plus être en danger, est dramatique. Le message est clair, vous n'êtes nulle part en sécurité, peu importe où vous vous cachez, nous vous retrouverons et s'il le faut, nous sommes capables de vous assassiner en pleine rue au cœur de la capitale allemande.
Parti de Moscou avec un passeport officiel mais sous une fausse identité, puis passé par Paris et Varsovie avant d'arriver à Berlin, Vadim Krasikov a selon les enquêteurs forcément bénéficié de soutien, soit au plus haut sommet de l'État, soit au sein des services de renseignement russes. Connu pour son passé de tueur à gages, ce dernier savait que Zelimkhan Kangochvili prenait chaque vendredi à la même heure le chemin vers la mosquée. Il a également méticuleusement évité toutes les caméras de surveillance, porté une perruque, sans parler de l'arme du crime, qu'il a difficilement pu transporter seul jusqu'à Berlin.
Tous ces points indiquent que l'auteur présumé n'a en aucun cas pu agir seul, qu'il a forcément bénéficié de soutien et que de nombreuses personnes étaient au courant de cette exécution. Cela signifie donc qu'il existe un réseau et que les autorités allemandes n'ont pas su jusqu'à aujourd'hui mettre un terme aux activités de ce réseau. Et même s'il s'agissait d'un réseau mobile avec des complices qui ne seraient restés que quelques mois à Berlin, là, nous ne savons toujours pas qui ils sont et l'État allemand non plus.
Le meurtre du Tiergarten a également eu de graves conséquences sur les relations germano-russes, avec l'expulsion notamment de plusieurs diplomates. Et ce procès s'ouvre au moment où le cas d'un autre opposant russe a jeté un froid entre Berlin et Moscou. L'empoisonnement d'Alexei Navalny et son traitement à la Charité, le grand hôpital berlinois. Un contexte certes difficile à oublier, mais qui ne devrait cependant pas jouer de rôle lors du procès, d'après l'avocate Barbara Petersen.
Je ne pense pas que les tensions diplomatiques actuelles ou les enjeux politiques puissent avoir une influence sur le procès. L'Allemagne est un État de droit et ce procès doit établir la vérité sur la culpabilité de l'accusé ainsi que ses motifs. Puis, en s'appuyant sur les preuves rassemblées, prononcer une peine, les juges ne sauraient en aucun cas se laisser guider par le contexte politique.
25 journées d'audience sont prévues, étalées jusqu'à la fin janvier 2021. Un délai bien trop court, selon Mike Baumgartner, pour faire toute la lumière sur cette exécution. Et du temps en plus, bienvenue pour le gouvernement d'Angela Merkel, car si les juges venaient à confirmer l'implication directe de la Russie, la chancelière n'aurait alors plus le choix et serait contrainte de prendre des sanctions fortes contre la Russie de Vladimir Poutine.
Un reportage de Julien Méchaussy à Berlin. Et c'est déjà la fin de ce magazine. Merci à Nicolas Martin pour l'interview de Jürgen Schupp et au professeur Butterwege pour l'entretien qu'il m'a accordé sur le revenu universel. Et surtout, merci à toutes et à tous de nous suivre fidèlement. Vous retrouverez les magazines Vue d'Allemagne dans la médiathèque de notre site dw.com/français. La semaine prochaine, rendez-vous avec Hugo Flotatalon pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !